8h13 sur Europe 1, vos invités ce matin, Sonia Mabrouk, en format exceptionnel. Hein.
Exactement, deux invités ce matin au micro d'Europe 1. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Et bonjour Cyril Hanouna.
Bonjour Sonia, bonjour Dimitri.
Bonjour Cyril. Ah ouais. Et bonjour Jérôme.
Maintenant voilà, que le décor est planté, je poursuis. Jérôme Sainte-Marie, il est politologue, il est sondeur et son prochain ouvrage à paraître le 28 octobre s'intitule « Bloc populaire, une subversion électorale inachevée » aux éditions du Cerf. Cyril Hanouna, vous êtes l'animateur vedette de C8. Vous avez publié « Ce que m'ont dit les Français » avec Christophe Barbier chez Fayard. Vous représentez ce matin deux regards différents, mais pas antinomiques sur la France d'aujourd'hui. Et tous deux, vous disposez d'outils de travail pour appréhender à votre façon l'évolution de la société. Cyril Hanouna, on va en parler. Pour vous, ce sont les réseaux sociaux. Et Jérôme Sainte-Marie, les sondages. Alors tout d'abord, les sondages, Jérôme, il y a des fluctuations, des variations fortes entre les différents instituts de sondage. Est-ce qu'ils sont solides, les intentions de vote à l'heure actuelle?
Pas exactement, dans la mesure où pour une bonne partie de l'échantillon, en fait, pour la moitié des Français, la campagne politique, la campagne électorale n'a absolument pas commencé. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans certains sondages, tant et si bien qu'on a des gens qui s'informent généralement par les canaux classiques qui, eux, ont une opinion, les autres, ils ont une préférence au moment où on leur pose la question. Ça dépend d'ailleurs énormément de l'exposition médiatique, ce qui est d'ailleurs une responsabilité pour nous tous. Et si vous voulez, je pense que d'ailleurs, une bonne partie du public de Cyril Hanouna en fait pour l'instant n'est pas réellement le sujet, n'est pas dans l'offre politique. C'est assez technique et de manière assez raisonnable, une bonne partie des Français attendent plusieurs mois, attendent en fait probablement début 2022 pour se décider. C'est presque aberrant, si vous voulez, de se poser ce genre de questions quand on
aberrant,
est dans le grand public.
Aberrant.
Oui, d'une certaine manière, bien sûr, et ce qui fait qu'on a des intentions de vote, on a des débats qui sont très largement artificiels, et c'est les personnalités les plus médiatisés qui aujourd'hui on le vend en poupe, mais c'est encore une fois quelque chose qui est souvent très démenti quand les catégories populaires dont je parle dans mon livre rentrent dans le jeu politique. Ça se produit généralement 2 ou 3 mois seulement avant le scrutin.
Ne pas se baser donc sur les sondages en ce moment, c'est une responsabilité pour nous. Peut-être un autre outil qui est aussi un outil déformant de la réalité, Cyril Hanouna, mais que vous utilisez beaucoup, les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, oui, parce que pour moi c'est une forme de sondage, les réseaux sociaux aussi. On peut avoir un sondage immédiat sur 6-7 millions de personnes qui peuvent nous suivre. Donc voilà, donc forcément, moi ça me sert également pour choisir les sujets de mon émission, ça me sert pour savoir un petit peu les tendances, ça me sert pour savoir quel est le sujet qui a le plus intéressé les Français et ceux qui suivent les réseaux sociaux tous les jours. Après, sur les sondages, ce que disait c'est franchement ce que vous disiez, Jérôme, là, juste sur les sondages, c'est vrai que on se dit, moi je fais des sondages, par exemple, si moi j'ai fait un sondage naturellement avec tout le public de l'émission. C'est-à-dire que j'ai pris 200 personnes et je leur ai demandé de voter comme s'ils étaient aux élections. C'était pour 2017. Et j'ai pu voir quelle était la structure de mon public tous les jours, puisque 200 personnes sur une dizaine de jours, ça fait un sondage de 2000 personnes. C'est plutôt un sondage sérieux. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai vu que mon public, à 40%, le public qui venait en plus, c'était des gens qui votaient Mélenchon, à 20% Marine Le Pen, le président arrivé en troisième position, et en quatrième position, par exemple, chez moi, c'était Philippe Poutou. Il a jamais fait ses meilleurs résultats que chez moi. Donc voilà, donc c'est vrai que les sondages, c'est...
Oui, alors j'ai lu votre livre, François Fillon faisait un score très limité.
Catastrophique.
C'est pas exactement le même public, on va dire.
Mais c'est vrai que François Fillon, par exemple, chez moi, les électeurs de François Fillon de l'époque, et ils ne regardaient, voilà, ils venaient pas dans mon public. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis assez fan de sondages aussi. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux et les sondages, ça se rejoint. Et les réseaux sociaux, c'est une forme de sondage immédiat. Donc c'est important pour moi aussi.
Et ce sont deux outils à votre disposition. C'est ce qui vous rapproche également. Jérôme Sainte-Marie, quand même, vous sonnez l'alerte ce matin, si je vous entends bien. Vous dites, parce qu'en ce moment, les responsables politiques sont en train de faire leur stratégie, défaire et faire leur stratégie, en fonction de ces sondages qui ne sont pas solides.
C'est pas une alerte. Moi, j'ai pas de. Comment dirais-je? Je suis pas là pour faire la morale.
C'est un lanceur d'alerte.
Je suis pas là pour faire la morale, loin de là. Et en plus, je suis essentiellement sondeur. Donc, je vais pas non plus trop critiquer cet instrument. C'est simplement ça, un petit peu alerté sur le fait qu'on s'intéresse pour l'instant à la vie de la France incluse, tant et si bien qu'on est démenti quelques mois plus tard. C'est ce qui se produit très, très fréquemment. Et une bonne partie de la population voit ça comme un spectacle pour l'instant, et ensuite ils sont pour l'instant tout à fait, ils sont plutôt spectateurs, voire téléspectateurs, et ils deviendront acteurs et citoyens au moment où ce sera justement le moment, c'est-à-dire encore une fois janvier-février.
Mais ce qui est important aujourd'hui dans les sondages, et c'est ce que vient de dire Jérôme, c'est que aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? C'est que l'échiquier politique est en train de se former, et il se forme à partir des sondages existants. On va prendre l'exemple d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent rejoindre Éric Zemmour. Pourquoi? Parce qu'ils le voient à 16 dans les sondages, 16-17. Ils se disent, ah, il a peut-être une chance de gagner, il a peut-être une chance d'émerger. Si Éric Zemmour était à 2 ou 3 dans les sondages, c'est vrai que personne n'aurait voulu le rejoindre. Là, on entend plein de gens de chez LR, on entend aussi des gens du RN qui sont prêts à rejoindre Éric Zemmour. C'est juste une dynamique qui est faite à partir des sondages. Donc c'est vrai que pour ça, ils sont importants les sondages, et ils vont aussi transformer peut-être l'échiquier politique et les candidats et les équipes de certains candidats.
Cyril Hanouna, vous avez parlé de votre public et d'une sorte d'échantillon, mais est-il représentatif? Parce que votre large public, c'est intéressant, il est très hétérogène. À la fois, c'est vraiment la gauche, on va dire, vraiment à l'autre bout de l'échiquier politique, extrême, diront certains, et la droite aussi.
Non, mais il y a de tout. Après, c'est vrai que voilà, 50% de mon auditoire est fait d'extrême, puisque on a voilà, je vous dis 40% ou 30%, entre 30 et 40% de gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, et 25 à 30% aussi qui votent Marine Le Pen. C'est les extrêmes. Pourquoi? Parce que ils se disent, c'est je trouve que c'est assez symptomatique, c'est qu'ils se disent, chez Hanouna, on va nous parler vrai.
Alors ça c'est intéressant, vous dites on va nous parler vrai, et vous dites souvent Cyril Hanouna que les hommes ou les femmes politiques parlent vrai, mais est-ce qu'ils parlent vrai, ou plutôt est-ce qu'ils ne s'adaptent pas à chaque public et à chaque émission comme ils le font le matin ici et le soir auprès de vous.
Mais ils sont plus, pour moi, ils sont plus naturels justement dans des émissions comme ça, parce qu'ils se lâchent un petit peu plus et ils se disent je vais devoir montrer autre chose. Mais je pense voilà, c'est assez symptomatique ce que Jérôme voulait parler, parce que c'est vrai que ce sont les extrêmes qui me regardent. Pourquoi? Parce qu'ils disent Hanouna c'est pas une chaîne info, c'est pas une émission politique comme les autres. Donc, même les hommes politiques, on va les voir autrement, et ils vont pouvoir avoir des questions qu'on ne leur pose pas ailleurs. Moi, je pense que les deux sont complémentaires.
Cyril, donc le responsable politique cherche à donner ce qu'on attend de lui.
Il parle à un bloc. Il va pas être le même, mais c'est sûr que chez moi, il va venir chercher des électeurs un peu plus jeunes, des électeurs qui n'ont pas l'habitude de voter, des gens qui sont encore pas complètement fixés sur tel ou tel candidat, et il va essayer de les séduire chez moi en jouant le jeu. C'est sûr.
La logique des blocs, un peu, hein, pour résumer, dont parle parfois Jérôme Sainte-Marie. Ce bloc populaire qui est au centre de votre ouvrage, vous l'analysez de manière très approfondie, Jérôme Sainte-Marie. En réalité, on ne dit plus classe ouvrière, on parle d'un bloc populaire assez large.
Non, on parle surtout des classes populaires, en fait, désormais, parce que la classe ouvrière, ça renvoie à un imaginaire communiste, hein, disons les choses clairement. Et il y avait à l'époque des syndicats, un parti, il y avait un rôle historique qui était confié, en quelque sorte, à cette classe ouvrière. Tout cela a très largement disparu, bien entendu, avec la chute du mur de Berlin et même avant. Mais on parle désormais des classes populaires parce que ça représente un milieu très important. Vous savez, les ouvriers et les employés ont le même revenu, assez bas, la même précarité. Ils sont souvent mariés ensemble d'ailleurs. Et à eux deux, ces employés et ces ouvriers, ces salariés d'exécution, ceux qui n'arrivent pas le plus souvent à bien s'en sortir alors même qu'ils travaillent, ceux qu'on a vus sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées, ou en tout cas qui les ont soutenus, ces gens-là, ils représentent la moitié de la population active. On a toujours l'impression, quand on regarde les publicités, tout cela, que le monde est peuplé de cadres supérieurs. Pas du tout. Les ouvriers, les employés, les petits artisans, les petits commerçants, ça représente énormément de monde. Ceux-là, ils se sentent très naturellement mal représentés. De ce point de vue-là, je crois que l'émission de Cyril Hanouna était aussi une chambre d'écho. Et on l'a vu, c'est très souligné dans le premier chapitre, je crois, de votre livre, ou de ton livre, je ne sais pas si je tutoie. Au moment des Gilets jaunes, effectivement, ça a été une chambre d'écho extraordinaire, parce qu'ils ont vu dans l'émission, dans tous ces invités, dans ce ton différent, ils ont vu un débouché, alors qu'ils ont souvent l'impression que la politique, que le débat se passe sans eux. Donc c'est effectivement des classes populaires très nombreuses qui ont du mal à trouver une expression politique et qui ne forment pas encore tout à fait un bloc, il faut bien le dire, alors même qu'ils ont confronté un bloc élitaire qui, lui, est bien construit.
On va parler
bien construit.
De ce bloc élitaire, c'est très intéressant. Mais est-ce que c'est cette France des invisibles, des gens ordinaires, comme l'a théorisé Christophe Guilluy dans son livre Le temps des gens ordinaires? Attention, parce qu'on donne l'impression que ce sont des blocs, or non, évidemment. Est-ce que c'est votre public également, Cyril Hanouna? Est-ce que vous vous dites, voilà, ce sont des femmes et des hommes qui ne sont pas à l'heure actuelle du tout intéressés par la campagne présidentielle? On n'y est pas du tout, et je le sens moi-même.
Je pense que, alors après, c'est toujours comme ça dans toutes les campagnes. Ça se fait vraiment au dernier moment. Tous les hommes politiques vous diront une campagne présidentielle, c'est un marathon. Donc forcément, il faut jamais partir trop tôt. Il faut pas partir trop tard, mais il faut tenir sur la longueur. Donc les mecs qui partent très vite aussi, qui sont très vite très haut dans les sondages, s'effondrent très souvent en janvier, février. Donc voilà. C'est vrai que c'est en janvier, en février, qu'on aura vraiment une cartographie de ce qui va se passer en avril prochain. Mais ils sont un peu comme tous les électeurs, mes téléspectateurs, ils attendent un petit peu le dernier moment. Et aujourd'hui, il y a très peu de votes d'adhésion. On le voit, avant, il y avait plus de votes d'adhésion, même sur des candidats. Aujourd'hui, c'est plus, on attend de savoir ce que va dire l'un, ce que va dire l'autre. Et on se dit, tiens, lui a dit ça, bon, alors je suis plus d'accord avec lui, donc je vais aller voter chez l'autre. C'est vrai qu'il n'y a plus d'adhésion comme avant. Je sens moins vraiment d'adhésion sur, même sur Marine Le Pen, qui avait un vote d'adhésion incroyable, on voit que ça s'effrite énormément et que l'adhésion n'est plus la même que lors des élections de 2017 pour elle, voilà, ou du Front National avant, où Jean-Marie Le Pen était passé au deuxième tour, il y avait un vrai vote d'adhésion. On savait que le Rassemblement National ou le Front National avait un socle très solide. Aujourd'hui, même le Rassemblement National, on voit que ça s'effrite et on voit qu'il n'a plus un socle aussi solide qu'avant.
Est-ce qu'il y a, Cyril Hanouna, un responsable politique qui vous a dit jamais je ne mettrai les pieds dans votre émission? Jamais.
Plus maintenant. Vraiment plus maintenant.
Tous viennent.
Vraiment. On n'a plus de refus catégorique. On va attendre un petit peu, on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a plus de refus catégorique.
Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est l'air du temps? Vous connaissez la phrase. Qui aurait imaginé le général de Gaulle? Si on l'adapte à notre contexte, qui aurait imaginé le général de Gaulle chez Cyril Hanouna?
Ah ben, j'aurais adoré.
Non, mais. Oui, Jérôme, vous répondez. Bon, après, je vais répondre si vous voulez. Allez.
Votre réponse m'intéresse.
Non, mais moi, je pense qu'au contraire, ce que je dis, moi, c'est que les hommes politiques, ils ont besoin de venir autant dans des émissions spécialisées que sur des radios sérieuses comme Europe 1 ou sur des chaînes info sérieuses, et ils ont besoin aussi de montrer autre chose chez moi. On a vu, Michel Drucker a toujours reçu des hommes politiques. Jacques Chirac a fait plusieurs fois le canapé de Michel Drucker. Moi, c'est un autre type de Michel Drucker, c'est un Michel Drucker 3.0, j'adore ce que fait Michel d'ailleurs, et je m'en suis aussi inspiré. Et c'est vrai que, voilà, moi, le seul truc que j'ai, et je le dis à chaque fois, c'est que j'ai l'avantage et l'inconvénient de les rendre tous sympathiques. Et ça, c'est vrai que ça peut être un inconvénient après, parce qu'on se dit, ah mais il était sympathique chez Hanouna, même si ses idées ne me correspondent pas, je peux aller voter pour lui. C'est le seul truc, voilà, qui me dérange un petit peu. Mais sinon, voilà, moi je pense que tout le monde doit venir, au contraire, pour montrer autre chose et pour toucher des gens qui ne sont pas encore fixés et des gens qui ne savent pas pour qui voter.
Jérôme Sainte-Marie, vous voulez réagir?
Oui, tout à fait. En lisant le livre, en fait, à un moment donné, il y a Cyril Hanouna qui parle d'agora révolutionnaire, oui, je crois, pour son émission. Sincèrement, je trouve ça, par un certain côté, un peu exagéré, parce que c'est très bien décrit dans le livre. Il y a une logique d'audimat, une logique bien de sûr. Spectacle, bien entendu, et sinon, assumé, d'ailleurs, hein. Ça ne serait pas regardé, c'est tout à fait normal. Non, mais j'ai pensé à cela parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, tu vas voir Cyril Hanouna, pourquoi tu fais ça? Enfin bref, certains...
Pourquoi tu fais ce matin
voilà,
cette interview au croisé?
Si vous voulez, dans mon milieu, certains ont dit, moi-même je regarde quand même très très peu l'émission, et certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça, c'est pas, etc. Et je leur ai répondu tout simplement, parce que les gens là, c'est celui qui parle le plus fort qui est entendu dans cette émission, mais je leur ai répondu tout simplement en citant un grand historien de la Révolution française, Timothy Tackett, quand il décrit le rassemblement des états généraux, les premières séances à Versailles en juin 1789, c'est tout simplement ce qui émerge. Il y a plus de 1000 délégués. Ceux qui émergent, c'est ceux qui parlent le plus fort. C'est-à-dire ceux qui ont la voix pour se faire entendre. Il y a une sélection naturelle, en quelque sorte, des grands personnages qui vont devenir les têtes connues de la Révolution française, à travers justement cette capacité à parler fort, à s'exprimer, à retenir l'attention. C'est une règle absolue de la politique, et c'est ce qui se passe également dans l'émission de Cyril, me semble-t-il.
Jérôme Sainte-Marie et Cyril Hanouna, on va poursuivre cette discussion avec évidemment Dimitri Pavlenko. Une question, Cyril, est-ce que vous pourriez vous engager en politique?
Non, jamais. Ah, vraiment,
attention,
jamais.
Le dernier qui a dit ça, il est ministre de la Justice.
Ah oui, non, mais moi jamais.
Non, parce que les jamais, on les connaît à ce
micro. Ah non,
micro.
Mais moi, c'est même pas, c'est bon. Vraiment, il y a 0% de chance.
On ressortira l'archive.
Ah, mais ouais, bah, vous pouvez la ressortir plein de fois, vous inquiétez pas, il y a 0% de chance.
On se retrouve dans quelques instants avec vous, Dimitri, et nos invités ce matin, Jérôme Sainte-Marie et Cyril Hanouna.
On marque une courte pause, à tout de suite.